Donc, ce soir, le dossier de la semaine porte sur le développement durable. Parler de développement durable, évidemment, c'est parler de changement, parce que réaliser ce défi, c'est réaliser un grand changement dans nos façons de vivre. Évidemment, les problèmes sont bien connus. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais des problèmes dont on parle moins, disparition des espèces, destruction des forêts, tout ça, c'est des choses qui sont concrètes. Croissance de la population. Les aspects plus peut-être sociaux, la pauvreté, la mauvaise distribution des richesses. Donc, ce soir, on va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire comme individu afin d'aider à améliorer les choses? On va essayer d'être positif et de nous amener vers l'action. C'est mon invité que je vais vous présenter, elle a insisté beaucoup sur cet aspect-là. Le concept est pas, évidemment, est pas nouveau, mais il a pris vraiment son essor, en 1987, là, avec le fameux rapport qu'on a appelé le rapport Brundtland, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui définissait le développement soutenable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable, soutenable, vise à favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains et entre l'homme et la nature. Une définition qui est assez large, de la vie de tous, mais qui fait consensus quand même sur le fait qu'on identifie trois axes. L'environnement, l'économie, la société, donc ce ne sont pas des axes qui sont séparés, développement et développement durable, l'aspect de la répartition entre les pays, tout ça, donc ça fait partie du même problème. Alors la question, c'est qu'il faut voir maintenant où est-ce qu'on en est, comment est-ce que nous on peut faire quelque chose, mais où est-ce qu'on en est, parce que évidemment 20 ans après la sortie du célèbre rapport, on a parfois l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose et que si on prend une image là sur on a 100$ à la banque et on en retire 30$ par année, donc 30$ de plus que ce qu'on a en intérêt, puis en plus la famille continue de s'agrandir, donc on s'en va vers un cul-de-sac. Ça fait un certain temps qu'on sait ça, et pour discuter de cette question-là et de ce qu'on peut faire, j'ai invité une conseillère en changement organisationnel vers le développement durable et chercheuse à la chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l'UQAM, bénévole et conseillère auprès d'Équitaire sur le commerce équitable, et une citoyenne du monde engagée, Anne-Lise Hodge. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à notre émission. Donc, la question, évidemment, la grande question, presque 20 ans après la sortie du rapport Brundtland, pourquoi les problèmes sont toujours aussi présents et on semble pas en voie de les régler?
Bon, c'est une question très complexe. Hein? Je pense que beaucoup de monde ont l'opinion là-dessus. Et comme chaque question complexe, il n'y a pas juste une facteur qu'on peut souligner. Mais vous avez déjà mentionné le problème à comprendre exactement c'est quoi le développement durable, c'est quoi une société moderne et soutenable. Et évidemment, comment peut-on s'arranger pour aller où il faut si on ne sait pas exactement où il faut aller, hein? J'espère qu'on va répondre à ça aussi ce soir. Probablement, il y a beaucoup de forces qui ont contribué à cela, comme le mouvement de néolibéralisme et la globalisation de marché, le boom économique depuis les années 90, le perte de pouvoir des États vers des compagnies, aussi peut-être un manque de courage ou de l'éthique ou de la vision de nos leaders, aussi la avidité, etc. Mais il faut aussi signaler que chaque changement, souvent les changements sont difficiles à faire. Hein? C'est très difficile à changer des habitudes, surtout si on n'est pas convaincu que les bénéfices vont être plus larges que les pertes. Et il me semble que souvent les gens ne sont pas vraiment proactifs, ils sont réactifs et ils doivent être touchés personnellement avant d'agir.
C'est ce qui explique peut-être que dans certaines sociétés où on a connu des problèmes, les gens ont peut-être plus commencé à mettre des choses en place et les gouvernements aussi.
Exactement. On voit en Europe, mais bon, l'Europe a eu plein de catastrophes environnementales déjà, comme le Chernobyl, le mort de la rivière principale, etc. Donc, il y a aussi le coût d'énergie et tout ça est beaucoup plus élevé, la voiture, etc. Mais ici, dans notre société, je pense que les gens sont... On a une feuille d'allusion. On ne voit souvent pas le résultat de nos pollutions. Et peut-être aussi, les gens ne sont pas assez conscients que chaque réaction est une réaction. On comprend beaucoup les causes et conséquences de notre propre façon de vivre et comment on a tous un impact. Mais comme vous avez dit, on utilise déjà 30% plus de ressources qu'on a. Et si on vit tout comme le Nord-Américain, on aura besoin de 3 à 4. C'est pas de bon sens.
Non,
c'est clair qu'il faut changer et c'est vraiment une course contre le montre. Je pense que Gandhi a dit il faut être le changement que vous voulez voir. Et moi, je suis convaincue si on pourrait être tout maître de notre propre changement, je suis certaine on serait sur la bonne piste.
C'est un programme ambitieux. Donc, quel conseil vous donnez à chaque individu, chacun d'entre nous, là, on peut se sentir un petit peu impuissant face à tout ça. On peut avoir l'impression que je peux pas vraiment changer grand-chose. Alors, quel genre de conseil vous nous donnez? Quel genre d'exemple vous nous donnez?
Ça, c'est aussi une question très complexe. Malheureusement, il n'y a pas une formule magique, hein, mais il faut au moins viser 2 objectifs. Le premier est de réduire notre consommation de ressources et le deuxième est de réduire notre production de déchets ou de la pollution. Donc, c'est comme, imaginez-vous qu'on vivrait dans une cellule et pour vivre dans cette cellule, on prend les ressources de la nature qui rentrent dans notre cellule afin de nous aider à vivre et en utilisant ces ressources-là, on produisait des déchets qui en retourne dans la nature. Et c'est la même chose pour les organisations. Donc, alors nous, comme individus et comme organisation, nous pouvons faire beaucoup afin de réduire notre consommation de ressources, donc ça qui rentre dans notre cellule, et notre production de déchets, donc ça qui sort de notre cellule.
Donc, réduire notre consommation de ressources et notre production de déchets. Est-ce qu'on peut donner des exemples de ce qu'on peut faire?
Oui, on peut par exemple appliquer ce concept de cellule à une maison familiale. Si je prends 2 exemples peut-être un peu extrêmes qui existent au monde, je vais nommer la première famille, les Jetsons.
Comme dans les cartoons, les dessins.
Oui, le dessin animé, je voyais beaucoup en Australie quand j'étais petit. Je ne sais pas, c'est une famille très futuristique. Et l'autre, on va nommer la famille de Caillou parce que je pense que ça, c'est le Flintstones,
les
ici au Québec. Hein? C'est vrai?
C'est bien connu, les pierres à feu, les cailloux.
Okay,
et les,
exactement. Exactement. Ouais. Donc, le premier, le Jetsons, eux, ils ont une toute petite voiture avec une batterie électrique où ils utilisent l'énergie solaire. Ils vivent dans une maison passive. On n'entend pas beaucoup parler de maison passive ici en Amérique du Nord, mais ça existe de plus en plus en Europe. C'est une maison où la fenêtre, l'insulation, l'énergie de gens et des appareils électriques dedans, et aussi l'échangeur de l'air fait en sorte que même dans les Alpes, vous devriez ni chauffer ni froidir votre maison. Et le Jetsons, ils ont toujours le choix, ils font toujours le choix de plus écologique comme les appareils électriques utilisent moins d'énergie. Au lieu d'utiliser la sécheuse, ils mettent le lin sur le corde à l'extérieur, etc. Et ils favorisent l'achat de produits locaux, hein, qui polluent beaucoup moins dans le transport parce que ça ne vient pas de loin. Mais si ça doit venir de loin, comme du café, ils achètent du café biologique et équitable, bien sûr. La deuxième famille, le Caillou, eux, ils ont une toute grande voiture.
Ils sont en retard.
Ah oui, mais ils ont une toute grande voiture, le Hummer. Hein? Ça produit 1 tonne de CO2 chaque année. Tous les appareils électriques dans la maison sont des énergivores, hein, qui mangent beaucoup d'énergie. Et le choix, ils pointent jamais le choix plus écologique comme de laver le vêtement avec de l'eau froide au lieu d'utiliser l'eau chaude. Et quand ils s'en vont au supermarché, ils laissent toujours le moteur de la voiture couler dans la roue pendant qu'ils prennent de tonnes de plastique, sacs de plastique dans le supermarché qui sont très toxiques et prennent au moins 400 ans exactement, à décomposer. Donc, je pense... C'est pas nécessairement que les cailloux sont méchants, mais je crois qu'ils sont probablement pas assez conscients comment leur façon de vivre lui coûte cher au niveau de la santé, de la poche et aussi de l'environnement. Et je pense qu'on comprend ces 2 extrêmes-là. Hein, et la plupart de nous, on vivre entre ces 2 extrêmes-là, mais c'est juste en essayant d'être un peu plus comme le Jetsons que le caillou qu'on peut vraiment admirer les choses.
Donc, effectivement, on voit bien la différence. Je pense que c'est un exemple qui a bien choisi. Et puis, on va pouvoir revenir après la pause et développer un petit peu plus sur ce que chacun d'entre nous, on peut faire.
Mercredi soir à CIBL, à 18h, au-delà de votre portefeuille, économie et actualité avec Yvon Bigras et Alain Hallé. À 19h, etc. Rock, l'opium du pop avec Roger Tanguay. À 20h30, faites la place, découvrez la scène locale avec Mathieu Franqueur. À 22h, le bourreau métallique, la bible du métal avec Simon Girard. À minuit, Caméléon, musique perfecte avec Chantal Normand. Et à 2h, joignez-vous à l'église de Vallis avec Wild Bill et El Topo. Une autre belle soirée en perspective à Radio Montréal.
C'est l'été de chez T-Rock. Plongez dans la pop excentrique de chez T-Rock le mercredi 19h à l'antenne de CIBL Radio Montréal.
Les moquettes, coquettes, hi-ha, on fait de la radio. Il fait beau et il fait chaud. Nous sommes les moquettes, coquettes.
Boyel!
Les moquettes coquettes au plan d'été, jeudi à 18h au 101,5 FM, CIBL, Radio Montréal.
Radio Montréal.
Alors, nous sommes de retour pour parler de développement durable, et ce que chacun d'entre nous, on peut faire. On a vu l'exemple de deux familles, les Jetsons et les Cailloux. Évidemment, une famille qui est qui est à la préhistoire, qui n'est pas encore consciente des enjeux. Mais il y a une autre question qui se pose quand même. Les personnes n'ont pas tous les moyens ni l'opportunité de vivre comme les Jetsons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, c'est un peu futuriste tout ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis certain que nos auditeurs aimeraient entendre là, peut-être des précisions sur ce qu'on peut faire chacun.
Oui, mais on a tous les choses que nous pourrions améliorer ou faire facilement, là, comme d'amener nos propres sacs au supermarché, etc. Et sans vous donner une recette magique, parce qu'on a chacune notre situation et nos moyens différents, je pourrais souligner trois étapes importantes. Mm-hmm. Premièrement, être consciente de votre empreinte au monde. Chacune d'entre nous laisse une empreinte plus ou moins profonde sur la Terre. Il y a même des sites web, on peut rentrer ou on peut calculer nous-mêmes.
Ouais.
Exactement. Juste en rentrant empreinte écologique calculateur dans Google, on allait trouver plusieurs. Peut-être vous recyclez et vous ne prenez pas votre voiture pour les distances courtes, etc., mais vous avez aussi une empreinte écologique et sociale sur la planète. Une Canadienne moyenne consomme 30 à 50 fois plus de ressources que quelqu'un dans le pays du Sud. Donc, on peut tous réduire notre empreinte et on peut trouver la façon juste en mettant nos choix quotidiens en question. Il faut comprendre que nos décisions quotidiennes comme quelle sorte de café je vais acheter, quelle sorte de voiture je vais acheter, est-ce que je vais marcher ou conduire, est-ce que je vais prendre un autre chandail ou chauffer plus. Donc nos choix quotidiens, ils ont tout un impact sur l'empreinte dans la semaine. Donc il faut demander vous, qu'est-ce que je pourrais facilement faire maintenant afin de réduire mon empreinte au monde et celui des gens autour de nous, moi.
Prendre conscience. C'est la première étape, c'est d'être conscient de toute la pollution et le gaspillage de ressources qu'on fait. C'est
exactement.
Pas toujours évident. On s'en rend pas nécessairement compte.
Exactement. Et la deuxième étape, après avoir regardé votre propre situation, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Donc, c'est vraiment de passer à l'action. Mais surtout, commencez avec des choses que vous pourriez facilement faire. C'est la même chose pour les organisations. Si vous mettez toute votre énergie à changer des habitudes qui sont très difficiles à changer, peut-être vous allez perdre l'intérêt avant de voir vraiment commencer. Hein? Il faut rester motivé, positif. Hein?
Ouais.
Donc, commencez surtout avec des choses que vous pourriez facilement faire. Choisissez donc quelques projets, initiatives ou gestes et essayez-les. Et voilà, c'est ça.
Faut y aller de façon réaliste, faut pas être trop ambitieux à la fois.
Exactement.
Et y aller par étapes. Et éventuellement, donc, la troisième étape, c'est...
La troisième étape, c'est juste de réévaluer où vous êtes rendu et faire l'action encore. Donc, le processus vers le développement durable est surtout un processus d'apprentissage continu où on se demande qu'est-ce qu'on peut facilement améliorer à Joui, après on l'emploie et après on révise la situation et on continue à améliorer.
Ça sera pas fini, on peut pas dire maintenant j'ai fini, là, j'ai fait ce que j'avais à faire,
non.
C'est fini.
Non, c'est vraiment un apprentissage continu. Hein? Mais c'est comme avec beaucoup de changements, on ne sait pas exactement où on s'en va, mais on sait au moins la bonne direction et c'est juste en allant dans cette bonne direction qu'on trouve des solutions. On apprend ce qu'il faut et on arrive.
Et donc, peut-être d'autres exemples pour des gens qui sont ici, des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus.
Oui.
Je sais que vous êtes venu en bicyclette, alors ça, c'est déjà un bon exemple.
Mais oui, c'est ça. Quand je suis arrivée à Montréal, je suis rendu compte que je pourrais facilement vivre sans une voiture. Hein. Avec cette décision-là d'acheter pas une voiture, j'ai déjà réduit mon empreinte sur le monde beaucoup. Hein. Mais maintenant, je rentre dans une autre étape de ma vie où j'avais besoin probablement de temps en temps en voiture. Donc, je commence à regarder les possibilités comme d'acheter un petit hybride ou d'utiliser comme une auto, etc. Et je vois maintenant beaucoup de monde qui sont en train de construire une maison, de faire des rénovations. Même là, vous pourriez faire le choix beaucoup plus écologique comme d'améliorer votre insulation, la fenêtre, même d'utiliser l'énergie renouvelable. Et ça, c'est bon pour votre poche et c'est bien sûr aussi très bon pour l'environnement. Il y a même des organisations comme Équitaire, si vous avez un revenu faible, qui peut venir dans votre maison et vous aider avec ça gratuitement. Et je vois beaucoup à Montréal aussi des jardins. Hein? Il y a beaucoup de monde qui aime jardiner.
Oui.
Donc, si c'est vous, pourquoi pas planter un arbre ou utiliser du compostage ou planter des légumes vous-même parce que c'est bon, mieux pour votre santé de manger les légumes biologiques et en même temps, il n'y a pas de pollution pendant le transport de ces légumes-là. Donc, c'est mieux pour l'environnement aussi.
Mais il y a des gens, on parle souvent quand on parle de pollution, on parle des entreprises, les dirigeants d'entreprises. Il y a des gens qui ont peut-être des responsabilités qui leur permettent de prendre des décisions aussi qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'on
Exactement.
Peut...
Exactement. Si vous êtes quelqu'un, une gérante d'une entreprise, une fabrique ou tout ça, je vois beaucoup au Québec, on a beaucoup d'opportunités à économiser d'énergie, par exemple. Si je prends l'exemple de Jude Granby, ils ont dans le nouvel bâtiment, ils ont favorisé l'énergie renouvelable, la géothermie et tout ça. Ils ont réduit meilleure insulation, etc. Le coût énergétique par 70%.
Hein, c'est énorme.
Énorme. Le payback est moins que 2 ans. Et après ça, l'énergie coûte rien. Hein? Mais je pense pour ces dirigeants-là, c'est surtout il faut regarder votre métier de base parce que c'est bon pour, si on prend par exemple l'université UQAM, hein, c'est bon pour l'UQAM de faire du recyclage, toutes ces choses à la périphérie, mais c'est surtout dans la recherche, l'éducation qui fait vraiment
bouger.
Exactement. Parce que s'il enseigne dans chaque cours, dans chaque faculté, comment ces compagnies dans ce domaine sont en train d'aller vers le développement durable, il peut donner les outils aux étudiants et gérants futurs à résoudre le problème qu'on doit résoudre bientôt.
Donc, chacun peut faire sa part. Les
Exactement.
Individus, les gens comme dans leur emploi, compte tenu de leurs responsabilités, les
Exactement.
Organisations. On doit donc comprendre que comme individu, on laisse une empreinte sur la Terre et on doit essayer de réduire notre consommation, réduire notre production de déchets, de polluants, en regardant ce qu'on peut faire et de façon continue, essayer d'améliorer les choses.
Exactement.
Mais il y a aussi des gens qui sont parfois des pessimistes qui vont vous dire qu'est-ce que ça change? Je laisse tourner le moteur de ma voiture là, pendant 2 minutes. Là. C'est quoi le problème? Là? Est-ce que moi, parce que je décide de changer cette petite habitude-là très détestable et très, très polluante, est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce que c'est suffisant avec des petits gestes comme ça pour arriver à un changement plus grand?
Oui, c'est certain que dans chaque situation, si les gens sont pas prêts à avoir le problème, ils sont probablement pas prêts de changer non plus. Peut-être pour ces gens-là, ça va prendre un grand choc qu'ils soient touchés personnellement avant d'agir. On parle de gens plutôt réactifs que proactifs. Hein? ça peut prendre des années et des années à changer de valeur, mais ça va venir. C'est juste une question de temps. Je sais pas si je peux revenir à l'exemple de zoo. Hein?
Oui.
Jusqu'au la Deuxième Guerre mondiale, il y avait de grandes zoos en Europe, et je parle du zoo à Paris, le zoo à Francfort, à Vienne, à Basel en Suisse. Et ces zoos-là ont fait des tournées avec des êtres humains dans le zoo.
Avec des êtres humains.
Avec des êtres humains comme des autres animaux.
Oui.
C'est incroyable. C'est incroyable. Jusque la Deuxième Guerre mondiale.
Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, pour nous, comme société aujourd'hui, on ne peut presque pas imaginer ça, hein, d'avoir des gens de Pacifique, de mec du Sud, de l'Afrique dans le zoo en Europe comme des autres espèces. Aujourd'hui, on attend que nos zoos soient des centres de conservation, qu'ils aident à l'éducation des gens sur le fait que les animaux sont menacés et qu'ils aident à la conservation de ces espèces menacées et l'éventuelle réintroduction dans la nature. Donc, ça démontre très bien, je pense, cet exemple, comment nos valeurs peuvent vraiment changer dans juste quelques décennies. Donc, je pense que
c'est... Donc, il ne faut pas être trop pessimiste. Là.
Exactement.
Il faut commencer. Il faut commencer maintenant. Il faut commencer... par des petits gestes, mais il faut commencer. De toute façon, si on ne commence pas, on n'y arrivera pas.
Exactement. Et en regardant le changement qui se fait autour d'eux, je pense que ces gens, en regardant des exemples de gens plus proactifs, je pense que même ces pessimistes vont voir qu'il y a nécessité à tout ça. Mais si je rencontre quelqu'un qui dit ça, hein, et qui était prêt de me cuter, je pourrais dire qu'on a tous un impact, spécialement au Canada. On a tous un grand impact sur notre terre et que nous pourrions vraiment faire une grande différence dans nos choix quotidiens, dans nos choix de chaque jour. Et finalement, on n'est pas seul. Hein. Il y a plein de monde qui se sont embarqués à mieux comprendre leur vie et à mieux vivre. Et on est peut-être dans la période la plus cruciale de toute l'histoire humaine. Hein. Si on commence pas d'une façon plus incrémentale, petit à petit, maintenant, de nous améliorer, dans l'avenir, la situation va être assez catastrophique pour qu'on soit forcé de changer notre vie d'une façon beaucoup plus radicale. Ça qui est évidemment beaucoup plus douloureux et stupide. Hein?
Vaut mieux agir plus rapidement parce que ça va être trop tard, ou en tout cas, ça va être plus difficile. Disons.
Exactement.
Ça va certainement être plus difficile.
Exactement. Et on peut pas attendre pour nos politiciens se réveillent avant d'agir. Hein? Comme j'ai déjà dit, Gandhi a dit, être le changement que vous voulez voir. Hein? Et moi, j'aimerais voir une belle planète, hein, avec des forêts, des animaux fascinants, de l'air pur, les gens vivre dans la paix et l'harmonie, et avec de la nature autour de nous, en pensant aux prochaines générations conscientes et responsables. C'est très romantique. Hein?
C'est un beau défi.
C'est un beau défi, mais chaque changement commence surtout avec un rêve. Et, et c'est juste en prenant l'action dans la bonne direction qu'on pourra réaliser l'impossible.
Oui, il faut le réaliser. Anne-Lise Hodge, je pense que le message était très, très bien compris, très clair. On a vraiment senti là, que c'était... Parfois, ça peut paraître décourageant de commencer, mais on n'est pas seul et on s'aperçoit que de plus en plus de gens... C'est pas nécessairement malheureux, ces changements-là. Je veux dire, ça peut même améliorer notre qualité de vie. Venir en bicyclette plutôt que venir dans une voiture, une grosse voiture climatisée, c'est pas nécessairement être moins heureux et moins bien. Hein?
Alors,
faut enlever l'idée que c'est nécessairement des sacrifices. Mm-hmm. Je pense que les gens n'aiment pas les sacrifices. On a été élevés ici au Québec là, dans un esprit judéo-chrétien là, de sacrifice. Les gens n'aiment pas faire des sacrifices, mais c'est pas nécessairement des sacrifices. Hein?
Non.
Et ça peut être aussi en même temps un défi qui est plaisant à relever avec d'autres gens, puis en étant solidaire avec des groupes. Et puis, donc, encore une fois, Anne-Lise Hodge, je te remercie. Puis, on peut aussi faire une invitation aux gens pour aller visiter le zoo de Granby, parce que je comprends que le zoo de Granby
a fait beaucoup.
Alors, oui. C'est une invitation à tout le monde.
Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.
Merci.